Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek. On est ravis de vous retrouver pour parler avec vous d'un sujet qui va, on l'espère, vous emmener loin, vous emmener jusque dans les étoiles, puisque nous allons vous parler d'astronomie. Alors attention, on ne se prétend pas ni astronome, ni astrologue, ni à rien du tout de tout ça. Mais en revanche, on s'est aperçu que l'astronomie, tout ce qui concerne l'univers, les étoiles, les trous noirs et que sais-je, est des meilleurs, inspirait très fortement la culture geek, et c'était un sujet de passion pour bien des geeks et bien des œuvres issues de la culture geek. Alors on va essayer en tout cas de vous faire vivre un petit peu tout ça, de vous raconter ce qui nous intéresse, nous, ce qui nous passionne, nous, dans l'espace, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait lever les yeux au ciel par une belle nuit d'été. Et puis, on vous parlera également de quelques œuvres majeures qui utilisent évidemment très fortement le thème des étoiles dans la culture geek. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Comme chaque semaine, il y a Marjorie qui est là. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Il y a également Ludo, salut Ludo.
Salut.
Et également Sam, salut Sam.
Salut tout le monde.
Alors vous allez bien tous les quatre, ça a l'air en tout cas, vous avez l'air content, vous avez l'air d'avoir les yeux qui brillent. Est-ce que les étoiles, c'est quelque chose les uns les autres qui vraiment vous fait rêver et vous fait rêver depuis longtemps?
Ouais, tout à fait, il faut savoir que j'ai mon étoile d'ailleurs. On peut actuellement acheter des étoiles et voilà, un petit passage de ma vie, on nous a offert une étoile.
Cool.
Ouais, tout à fait.
Tu nous emmèneras en vacances?
Je vais essayer.
Tu sais où elle se trouve ou pas?
Oui, enfin, non, mais il y a tout un système de cartes pour faire du repérage. Ouais, tout à fait.
Cool. Et les gens qui te vendent des étoiles, même pas, ça leur appartient. Ils disent, allez, vas-y, pas cher, je te vends une étoile, allez, pars à moi.
Ah, ils vendent du rêve. Hein.
T'es sûr que tu n'as pas vendu trois fois déjà étoiles? Marjorie, toi, les étoiles?
J'adore ça. Depuis toute petite, ma grand-mère adorait les étoiles et elle m'a toujours montré toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel. Et elle m'a appris... Ça fait très longtemps, mais les constellations, tout ça, bon, j'ai un peu tout oublié. Mais,
la grande casserole, la petite casserole, tout ça.
La grande ours, la petite ours.
Et toi, Ludo, est-ce que tu es un astronome confirmé? Est-ce que tu pointes régulièrement ta lunette vers les étoiles ou est-ce que tu la laisses en direction simplement de tes voisins et voisines?
Alors, par décence pour mes voisins et voisines, je n'ai pas de lunettes. Non, par contre, l'inconvénient, c'est qu'en habitant en ville, c'est un peu compliqué de regarder les étoiles. Il faut aller s'exiler un petit peu à la campagne pour pas avoir de pollution lumineuse. Mais sinon, oui, c'est vrai que ça donne envie. Maintenant, j'ai arrêté à force de me prendre des poteaux parce que justement, j'ai été dans les étoiles. Maintenant, je regarde moins, mais bon, j'aimerais toujours.
Alors, on peut le dire, hein, l'univers, les étoiles, les planètes, la gravité, c'est vraiment un thème qui fascine beaucoup de gens. Mais les geeks sont particulièrement fascinés par ça. On sait que les geeks aiment la science. Ils sont fascinés par l'infiniment petit, bien sûr, mais aussi par l'infiniment grand. Déjà, une des premières choses qui est extraordinaire, c'est que parmi les quatre forces en physique qui sont présentes, la force qui gère un peu tout l'univers, les planètes, les galaxies, etc., ben, c'est la gravité. Et en fait, parmi les quatre forces en physique, c'est la force qui est la moins forte, en fait, par rapport aux forces à l'intérieur de l'atome, par rapport aux forces magnétiques. La gravité, c'est un truc qui est relativement tout pourri, mais c'est ça qui fait que l'univers tient debout, en fait. C'est déjà un truc qui est assez extraordinaire. De se dire aussi que l'homme n'est pas au centre de l'univers, finalement. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Même le Soleil n'est pas au centre de l'univers. Et même la Voie lactée, enfin en tout cas la galaxie dans laquelle on vit, n'est pas du tout au centre de l'univers. C'est quand même assez rigolo aussi.
Et peut-être même que notre univers n'est pas au centre de ce qu'il y a encore autour. Et ça, on ne le sait pas encore.
Alors, parmi les découvertes justement scientifiques, quand on parcourt un petit peu la presse geek, on voit de temps en temps des trucs un peu étranges sur les extraterrestres ou autres qui sont plus ou moins réalistes. Un des derniers trucs qui est sorti, c'est une étoile qui aurait une super structure autour d'elle qui capterait la force de l'étoile et qui aurait pu être construite par une population extraterrestre. Alors, on dit bien sûr « aurait », on met beaucoup de guillemets parce que, en fait, c'est tout simplement une étoile qui a une forme et une luminosité qui est assez étrange, on ne sait pas trop pourquoi. Une méga structure autour de l'étoile pourrait expliquer le comment est-ce qu'on l'aperçoit. Qui aurait construit cette méga structure, on ne sait pas et on ne sait même pas si elle existe, mais en tout cas, ça donne très très vite des idées. Et puis alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'information aussi sur les ondes gravitationnelles. C'est un truc qui vous parle, messieurs, dames, les ondes gravitationnelles ?
Ah oui, oui.
Alors, les ondes gravitationnelles, on a pu relativement récemment, a priori, essayer de... Enfin, en tout cas, elles sont théorisées depuis très longtemps, mais on a pu les percevoir relativement récemment. Et celui qui a théorisé dans les premiers, je crois, les ondes gravitationnelles, c'est ce fameux astronome et scientifique, physicien, qu'on voit dans The Big Bang Theory. Stephen Hawking, voilà. Et en gros, alors vous me corrigez hein, si vous avez d'autres infos, je me tourne particulièrement vers toi Ludo, mon ingénieur préféré. A priori, la théorie d'Hawking, ce serait que les ondes gravitationnelles viendraient des trous noirs et qu'en fait, il existerait d'autres univers, que les trous noirs aspirent la matière par leur force de gravité absolument énorme, et quand la matière passe dans un trou noir, elle ressort de l'autre côté dans un autre univers sous forme d'ondes, ces fameuses ondes gravitationnelles. C'est une théorie qu'il avait depuis très longtemps, et vu qu'on vient d'en capter, ça semblerait être quelque chose qui tiendrait debout.
Il doit être content.
Oui.
Voilà.
Alors après, il faut toujours mettre des guillemets, effectivement.
C'est pour ça que je suis au conditionnel partout. Hein. On est sur des théories scientifiques qui sont quand même étayées par des bouts de cahouettes.
Un gros souci, justement, de la détection scientifique, c'est que souvent, on veut tellement détecter quelque chose que, fatalement, on finit par détecter quelque chose. C'est justement un des gros paradoxes de la recherche scientifique, c'est que, notamment, alors, c'est surtout le cas pour tout ce qui est l'infiniment petit. Parce qu'on veut voir des particules tellement petites que les machines, de toute façon, finissent de toute façon par détecter ça, ne serait-ce qu'à cause d'une anomalie. Donc, et là, on est un petit peu sur le même genre de choses.
Avec l'infiniment grand.
Voilà, faut pas oublier quand même qu'on a des moyens assez limités.
Est-ce que c'est pas une des questions aussi autour notamment de la physique quantique, mais pas que, du fait que le fait de mesurer, finalement, change la donnée. Le simple fait d'être en train de mesurer quelque chose modifie finalement l'expérience et du coup peut rendre plus ou moins caduque une expérience. Ça va sur le raisonnement scientifique ? Je ne suis pas à côté de la plaque.
Carrément ça.
Voilà. C'est le chat de Schrödinger, ça. Tout ça, physique quantique. On n'est pas exactement dans le même truc, mais
c'est
voilà. Si le chat savait qu'il était en train de se faire mesurer, je pense qu'il se jetterait de lui-même contre le couvercle de la boîte pour péter la radioactivité qui est à l'intérieur. Vous n'avez rien compris, vous inquiétez pas. Si
regardez
vous aimez la
Big
physique
Bang
quantique,
Théorie.
Vous devez avoir,
vraiment connaître l'histoire du chat Schrödinger pour comprendre celle-là.
En tout cas, on comprend que l'astronomie et tout ce qu'il y a autour est un sujet qui passionne les scientifiques. Et qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui, à l'origine, étaient plutôt des geeks, Marjorie.
Oui, puisque de toute façon, de manière à peu près sûre, les premiers geeks, c'était ces nerds américains qui étaient les premiers de la classe, les intellos, et qui avaient bon partout dans la physique et dans les sciences. Donc, sauf les sciences humaines, hein. Je le rappelle, les sciences humaines, c'est pas bon. Hein.
C'est pas des sciences.
C'est pas des sciences. Ben oui, je sais bien.
C'est le paradoxe aujourd'hui, c'est que finalement, les premiers geeks étaient d'abord scientifiques avant d'être geeks. Et ouais. Aujourd'hui, les geeks ne sont pas forcément des scientifiques, mais on va dire par transcendance, s'intéressent aussi énormément à la science quand ils ne sont pas de base scientifiques. Ce qui ne veut pas dire que les scientifiques sont plus geeks ou que tous les scientifiques sont forcément geeks, ni que tous les geeks deviennent par la suite forcément scientifiques. Mais en tout cas, il y a une interpénétration des cultures qui est propice à parler d'astronomie dans la culture geek. Je vois Ludo sourire, il se demande comment j'ai pu sortir un truc aussi compliqué.
Il est content de sa phrase, ça s'entend au son de ta voix.
Alors, l'astronomie, Ludovic, ça fait combien de temps que l'homme étudie ça ?
Alors, il me semble, sous le regard bienveillant de Marjorie, que c'est une des sciences les plus anciennes. Mais je pense que Marjorie en saura un petit peu plus sur le sujet.
Ah, mais vous faites bien comme vous voulez. Hein. Moi, je suis là, je fais des phrases, après le reste, vous vous débrouillez.
Oui, monsieur n'a pas suivi le plan donc, que j'avais préparé. Donc, pour tout vous dire, chers auditeurs, avant que ça ne devienne une vraie bataille rangée ici, l'astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. Les origines de cette science viennent directement de la préhistoire. Nos plus anciens ancêtres avaient déjà pour habitude de regarder le ciel et de se demander ce qui se passait là-haut avec tous ces petits points lumineux et qui les avait mis là.
Je voudrais juste au passage dire que le plan d'une émission, Marjorie, c'est comme dans l'astronomie, c'est comme le Big Bang, c'est-à-dire qu'au départ tout est sur une feuille et puis plus le temps passe, plus les choses s'éloignent les unes des autres.
Oh, c'est habilement mené mais ça ne marchera pas très cher.
Le primate se raccroche à la branche.
Sam, dans la culture populaire, en préparant l'émission justement, On parlait un peu de culture geek qui nous disait que, mais même dans l'enfance, en fait, on mangeait sans le savoir de l'astronomie avec notamment une série qu'on a tous regardée et tous aimée, Goldorak, avec ses fulgureux points. En fait, le nom des héros n'était pas lié au hasard.
Oui, tout à fait, que ce soit Goldorak, les Cités d'Or, les Chevaliers du Zodiac, on retrouvait toujours un rapport avec l'astronomie, les étoiles, les constellations. Goldorak, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu ce que c'est. Donc,
Les fulgureux points, le super robot qui fait mi-robot, mi-vaisseau.
Tout à fait, je pense que tout le monde connaît. Les noms des différents personnages, en fait, ont tous un lien, ou presque, avec l'astronomie. Que ce soit...
Moi, j'étais Actarus, du coup, quand je jouais avec mes frères et sœurs. Actarus, ça vient d'où?
Alors, Actarus, son nom s'inspire de la principale étoile de la constellation du Bouvier.
D'accord.
Par exemple
Du Bouvier, donc le scarabée qui... fait rouler son caca sur des kilomètres pour créer
son
truc.
C'est pas le bousier, ça ?
Ah, c'est le bousier. Le bousier, c'est quoi ? C'est un bœuf ?
Bonne question.
On va travailler sur les animaux beaucoup plus tard. C'est une constellation.
La constellation de Bouvier tire son nom de l'homme qui l'a repéré le premier.
Ah, Monsieur Bouvier.
Et qui lui a donné son nom.
D'accord. Qui était aussi le nom de mon prof de latin au passage au collège, que je salue.
Je connais aussi des Monsieur Bouvier.
Mais... je crois qu'il y en a beaucoup de Monsieur Bouvier, mais je savais pas qu'il y avait des quoi.
Rien à voir.
Il y en a d'autres, du coup, alors en les passant comme ça, assez.
Tout à fait, on a Vénusia, donc, qui s'inspire d'une planète. Il y a Mizar, un enfant qui habite donc Orange, qui tire son nom de la constellation de la Grande Ourse. Enfin voilà, il y en a toute une liste, et à peu près tous les personnages sont tirés d'une constellation.
Alors si on revient sur les phénomènes qui sont intéressants dans l'espace et qui inspirent la culture geek, on a parlé des trous noirs. C'est vrai que le trou noir, c'est un des ressorts de plein de films et de plein de séries. Ludo, serais-tu spécialiste des trous noirs ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, mais vite fait, ce que c'est qu'un trou noir ? Ou en tout cas, je crois qu'on n'est pas très calé sur les trous noirs, même chez le plus grand scientifique, ça reste un truc un peu complexe à étudier. Mais tu peux nous expliquer justement, en gros, pourquoi est-ce qu'on en sait aujourd'hui ?
Alors, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement peu, finalement, pas si connu que ça. Mais d'après ce que je sais, c'est un effondrement de la matière qui provoque une sorte de poids inversé. Donc, du coup, qui aspire tout ce qui a du poids. Et aussi tout ce qui a de l'énergie.
On imagine souvent que c'est la fin d'une étoile, que quand une étoile meurt, ça peut faire un trou noir.
En fonction de la quantité d'énergie justement dont elle disposait, et justement toute cette énergie qui s'effondre d'un coup provoque justement un grand vide à combler. Donc c'est un peu comme un aspirateur.
Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un trou noir, c'est un objet dans l'univers qui a un poids qui est absolument gigantesque, qui aspire du coup la matière qu'il y a autour, mais pas que la matière, aussi en partie de l'énergie, et notamment la lumière. Et c'est pour ça que c'est compliqué à étudier, et c'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir, c'est qu'un truc qui aspire la lumière, c'est assez hallucinant.
Justement, c'est pour ça que je me suis repris en parlant d'énergie, non pas seulement de poids, justement, parce que les photons n'ont pas de poids, tout ça. Merci Einstein.
Marjorie, un truc à dire par rapport aux photons ?
Non, mais du coup, les trous noirs, s'il y en a un, on risque pas tous de mourir.
Ça dépend s'il est dans ta maison ou s'il est plutôt relativement loin. S'il est dans ta maison, franchement, c'est chaud pour toi, c'est chaud pour moi,
toutes les étoiles,
c'est chaud pour toute la galaxie.
Non, mais si, même s'il est loin, il va absorber toutes les autres étoiles et du coup, il y aura aussi des vides à combler. Et du coup, ça va faire d'autres trous noirs, et etc.
Ça prend de l'ampleur, en fait, au fur et à mesure.
Mais me regarde pas, je ne suis pas astronome, moi.
Oui, mais t'es animateur, t'es censé avoir toutes les réponses.
Alors, je suis plus sûr de quelle théorie dit ça, mais il me semble qu'en fait, du fait de son poids énorme, une des propriétés d'un trou noir, c'est qu'il va déformer en fait l'espace-temps. L'espace, bon, d'accord. Mais le temps, donc, ça veut dire aussi que ça va ralentir le temps. Donc, si jamais tu avais un trou noir dans ta maison, alors tu pourrais rien y faire, mais tu aurais un petit peu de temps pour t'en rendre compte.
Je crois que la théorie qui dit ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est la relativité avec Einstein, E égale MC2, énergie égale masse égale vitesse de lumière au carré. Et du coup, il y a une relation forcément entre la masse, la gravité et le temps.
En fait, il me semble bien que E égale MC2, c'est la relativité restreinte. Et que justement,
oui, mais la formule est détaillée et franchement, je ne la connais pas. C'est celle d'avant que personne ne connaît jamais et tout le monde est incapable de le dire.
C'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a deux théories.
Mais il y a un lien distinct. En fait, il y a un lien très précis entre gravité et temps, en fait. Et du coup, plus la gravité est légère ou lourde, plus le temps est distendu. Et oui, on apprend quand on fait justement... un peu de physique dans l'espace, de l'astronomie et autres, parce que c'est pas le nom exact de la science, mais on apprend que le temps, c'est pas une donnée constante. On a tous l'impression que le temps, c'est une donnée qui a une flèche et qui est une donnée constante, mais pas forcément. Pas forcément. Et déjà, on dit que l'univers est infini. Ça aussi, c'est un truc qui, moi, me fascine. L'univers est infini, mais il n'est pas encore fini. Il continue de grandir. C'est-à-dire qu'à partir du Big Bang, l'univers continue de s'étendre et les galaxies continuent de s'éloigner les unes des autres.
Un des paradoxes, justement, à propos de ça, c'est qu'effectivement, comme l'univers est en extension, en fait, en théorie, si on suit la logique, vu qu'il y a des étoiles dans tous les sens, dans toutes les directions, même si elles émettaient un rayonnement même très faible, en fait, il ferait jour même la nuit. Parce que, en fait, les étoiles suffiraient à apporter suffisamment de lumière pour qu'on ait l'impression qu'il fait jour alors que le soleil est de l'autre côté. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait, une des explications à ça, c'est qu'en fait, comme l'univers est en expansion, la vitesse en fait, des photons est modifiée et en fait, va tomber dans des gammes qui sont infrarouges. Donc, ce qui fait que, en fait, nous, notre œil n'est pas capable de percevoir tout ce rayonnement qui est émis par ces étoiles qui sont très loin.
C'est incroyable hein, comment on se sent tout petit dès qu'on commence à avoir justement la tête dans les étoiles avec des notions absolument folles. Si l'univers est en extension, qu'il est infini, mais qu'il est toujours en train de grandir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'univers ? Voilà une question absolument faramineuse et qui est déroutante. Toujours sur les trous noirs, il y a cette question des trous de ver. Il y a une idée peut-être que deux trous noirs pourraient être liés ensemble par un trou de ver, mais qui serait un espace dans lequel il n'y aurait pas forcément d'espace en fait, et de temps non plus, et qui pourrait relier des endroits complètement lointains d'une galaxie ou même de l'univers. Alors théoriquement, a priori, ça marche aussi un peu sur des cacahuètes et ça doit passer. Après, on n'a jamais réussi à rentrer dedans, à vérifier si ça marchait, sauf dans les bien connus films Stargate et la série Stargate, où là, eh ben effectivement, on passe par des trous de ver entre deux portes des étoiles, ce sont des trous de ver, et ils reprennent cette théorie-là. Vous voyez pourquoi la culture geek s'inspire autant des étoiles, c'est qu'il y a plein de choses très intéressantes à dire. On va faire une petite pause musicale, parce que le temps passe très très vite, avec un morceau qui s'appelle Eclipse Blue. Ça tombe bien. Dans Génération Geek, on a un peu la tête dans les étoiles, on parle de l'univers, des galaxies, on parle des planètes lointaines et de comment tout cela impacte finalement la culture geek. Alors on parlait à l'instant des trous noirs, on parlait des trous de ver aussi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, entre deux trous noirs, enfin hypothétiquement. Parmi les trucs un petit peu foufou dans l'espace, il y a le fait de savoir si quelque chose peut exploser ou pas dans l'espace, si on peut entendre aussi des choses dans l'espace. Et puis qu'est-ce qu'il y a dans l'espace en fait entre la Terre et la Lune, une fois qu'on est sorti de l'atmosphère de la Terre, est-ce qu'il y a un truc ou est-ce qu'il n'y a rien ?
Bien grande question.
Alors, si on repart un peu en arrière, pour Jules Verne, je ne sais pas si vous avez lu de la Terre à la Lune ou sur la Lune, mais c'est de l'éther qu'il y a dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir rien du tout, donc il y a de l'éther dans l'espace. Et même une fois qu'on est sur la Lune, Alors après, c'est pas de l'éther, genre l'éther, tu vois, mais c'est un truc qui s'appelait de l'éther et qui n'était pas de l'éther. Oui, Ludo.
Il me semble bien que, en fait, je crois pas que ce soit Jules Verne qui a inventé cette idée-là, en fait.
Alors non, elle était présente, dit, mais était très présente depuis très longtemps dans les communautés scientifiques. Voilà. Bah parce que le rien a beaucoup dérangé. C'est-à-dire que déjà, nous, on se dit, OK, il y a du rien entre la Terre et la Lune, mais qu'il y ait rien après l'univers, là, on se dit, mince, pouf, c'est chaud, quoi.
C'est du rien de rien.
C'est du rien de rien, quoi. C'est comment c'est possible, quoi. Alors, quand on voit toutes ces questions de gravité, de son, etc., on pourrait commencer par parler de quelques films un peu célèbres qui ont justement eu ce cadre, ce décor de l'espace comme schéma. Le premier, dont je voudrais qu'on parle, c'est un film avec une astronaute à qui il arrive des petits ennuis près de la station spatiale. Gravity.
Ah, Gravity. Gravity. Avec Sandra Bullock et George Clooney.
Alors là, ce film, il utilise clairement l'idée de l'espace comme décor complètement avec tout ce qui peut se passer comme problématique
en fait,
de son, de vitesse, de gravité, justement.
En fait, tout dans ce film montre l'espace et utilise l'espace comme un moyen de revenir à l'humanité.
C'est un peu philosophique.
C'est un peu philosophique, certes, mais... Si on regarde l'héroïne, quand elle revient sur Terre, son voyage dans l'espace lui a permis de revenir aux origines de la personne qu'elle était avant qu'il lui arrive un gros malheur.
Mais donc, effectivement, dans Gravity, c'est l'espace qui sert de décor avec toutes les problématiques de si on lance un objet dans l'espace, eh ben, il ne s'arrête pas de voler. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le freine. Donc il n'y a pas de raison qu'il il ne s'arrête pas. Ce qui est d'ailleurs un problème avec les satellites aujourd'hui. Autour de la Terre, parce que quand un satellite explose, en tout cas, ou un petit pépin, ou ne marche plus, il continue à tourner autour de la Terre, et donc ça fait des débris. Et s'il pète un autre satellite, ça fait encore plus de débris qui vont continuer sans s'arrêter, à moins qu'ils tombent sur Terre. Donc on commence à avoir des petits soucis, il y a des gros questionnements hein, au niveau des agences spatiales par rapport à ça.
Contrairement à la Terre, il ne faut pas laisser de débris dans l'espace parce qu'ils y restent de toute façon. C'est impossible de les enlever. De toute façon, ils continueront à tourner.
Alors, c'est comme jeter des canettes sur l'autoroute, en fait.
Faut pas le faire.
Alors Gravity, donc c'est un film qui a ce décor-là. Il y a aussi un film toujours récent hein, de Christopher Nolan, Interstellar, qui utilise là vraiment complètement cette idée de dont tu parlais, Ludovic, des trous noirs, du temps qui change en fonction de la taille de la planète et qui est particulièrement intéressant sur ce rapport à l'humanité, au temps, à la gravité et à l'espace.
Tout à fait, puisque tout le film repose sur le principe que la Terre n'est plus habitable. Pour les êtres humains, en tout cas, elle devient très nocive pour eux à cause de la pollution et de tout ce qu'a fait l'être humain de mauvais pour elle. Donc du coup,
elle pose des canettes sur l'autoroute.
Voilà, une mission est envoyée dans l'espace afin de découvrir s'il n'y aurait pas d'autres planètes susceptibles de nous accueillir, donc avec de l'oxygène, tout ça. Le souci, c'est que dans notre système solaire, on les a un peu toutes faites et il n'y en a aucune pour nous. Donc, la mission spatiale qui est envoyée doit passer par un trou noir pour aller voir si dans un autre espace de la galaxie, si je me souviens bien, il n'y aurait pas quelque chose qui puisse se rapprocher de notre bonne vieille Terre.
Sauf que problème, à chaque fois qu'ils explorent une planète, il faut vachement de temps pour y aller. Et ils se retrouvent avec des planètes qui sont très proches d'un trou noir et où là, du coup, chaque seconde qu'ils vont passer à explorer la planète va correspondre à un mois, à un an, etc. Et du coup, il y aura un vieillissement qui va être différent sur Terre et dans l'espace. On ne vous spoil pas la suite et tout ce qui se passe, mais on est vraiment sur un film qui est... dont cette thématique-là est en plein cœur finalement du sujet.
Par contre,
Christopher Nolan est vraiment un gros geek.
Par contre, je tiens à le dire, il faut aller le voir. Vraiment.
C'est un excellent film.
Pour moi, ce qui se rapproche le plus d'un chef-d'œuvre depuis ces 15 dernières années.
Mais Gravity, au passage, est un très très bon film aussi, hein, une espèce de huis clos dans l'espace. On s'y attend pas du tout en allant le voir, et même s'il y a Sandra Bullock, c'est un bon film.
Elle a eu quelques récompenses pour ce rôle, hein, faut pas l'oublier.
Bah oui, c'est les premières de sa carrière, je pense qu'elle peut les garder longtemps. Non, je plaisante, j'adore Sandra Bullock en plus. Mais pour une fois que c'est une comédie romantique, qui n'est pas vraiment une comédie romantique, autant en profiter. Dans la catégorie des séries, alors bien sûr il y a Star Trek avec le fait d'explorer l'univers et d'explorer différentes planètes, mais on ne va pas vous parler trop longtemps de Star Trek, c'est quelque chose qui est très très connu, il y a un grand nombre de saisons, un grand nombre de films. Parmi les trucs un petit peu moins connus du côté des séries, Ludovic, tu as deux, trois choses à nous proposer.
Alors, effectivement, alors il y a... une série qui est finie qui s'appelle Battlestar Galactica, où on est justement sur notamment de l'exploration, mais plus de la fuite dans l'espace, et où on retrouve justement ce côté absence de son, absence... Enfin, le problème, c'est que cinématographiquement parlant, c'est un peu délicat de ne pas montrer d'explosion, de ne pas montrer de feu visuellement et d'un point de vue sonore.
On va le dire tout de suite, calme. Il ne peut quasiment pas y avoir d'explosion dans l'espace, puisque pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Et dans l'espace, il manque un truc crucial, c'est l'oxygène.
Exactement, c'est-à-dire qu'une explosion serait toute petite, parce qu'en général, si un compartiment où il y a de l'oxygène explose, oui, il y aura une explosion. Par contre, clairement, on n'entendra rien du tout.
Mais quand on voit un énorme vaisseau spatial de Star Wars qui explose, laissant des débris partout enflammés dans l'espace, ça, c'est compliqué.
C'est plus compliqué déjà. Par contre, effectivement, avoir le vaisseau qui se disloque, c'est faisable. Par contre, quand on entend justement dans Star Wars des piou-piou-piou, tout ça... Ça, par contre, c'est du flan.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Vous pouvez voir, ce que vous pouvez voir dans Gravity, en fait, il y a des, des débris, il y a des choses qui se brisent, mais l'héroïne n'entend jamais rien.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de piou-piou-piou dans l'espace et de son dans l'espace? Pour une bonne et simple raison, c'est que dans l'espace, c'est du vide, le son, c'est une onde, les ondes se propagent dans la matière, c'est-à-dire qu'une onde peut se propager dans l'acier, dans la flotte, dans l'air, aucun problème. Dans l'espace, il n'y a rien de, comme support pour l'onde, c'est un peu compliqué.
C'est surtout que oui, c'est une onde, le son, c'est une onde sonore qui se repose sur la matière, effectivement. Contrairement à la lumière, par
l'onde
exemple.
L'onde lumineuse, voilà, avec les fameux photons qui ne pèsent rien, ou les ondes gravitationnelles aussi, voilà, de ce genre-là.
Qui, eux, sont portées par rien du tout. Donc voilà, c'est une petite différence. Ouais. Petite précision.
Pardon.
Donc pour en revenir à Battlestar Galactica, on a justement ce concept de silence. Voilà. Et on retrouve ça aussi dans The Expanse, une série qui est sortie récemment, où justement, pareil, là on reste dans le système solaire, mais où on a l'exploration, la terraformation de Mars et la vie dans une ceinture d'astéroïdes complètement différente de sur une planète tellurique.
Du côté des bouquins, il y a des choses très marrantes chez Jules Verne. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur De la Terre à la Lune et Autour de la Lune. Il y a aussi énormément de choses du côté de la science-fiction et tout ce qui est space opéra vous apporteront vraiment des choses très sympas. Particulièrement, je pense à la stratégie Ender, où là, ils ne sont pas spécifiquement dans l'espace, mais où effectivement, comme ils travaillent sur des simulations de combat dans l'espace, eh bien, ça change. Ce n'est pas comme un combat sur Terre, un combat dans l'eau, un combat même avec des avions. Le fait d'avoir toutes les dimensions de l'espace pour se battre, eh bien, rend les choses particulièrement intéressante. Sam, du côté des jeux vidéo, tu as quelques petites bricoles à nous offrir très rapidement ?
Oui, de petits classiques. Le moindre jeu vidéo, en fin de compte, peut être basé sur l'astronomie, sur l'espace. Il n'y a qu'à voir Super Mario Galaxy dans les classiques actuels. Et le mode solo de Bomberman. Également, où il faut... donc Bomberman, à la base, c'est un poseur de bombes dans des labyrinthes. Et là, non, il faut sauver... Plutôt arrêter un ennemi, en fait, en allant sur diverses petites planètes. Donc, voilà, quelque chose de très
simple. Ça, c'est la campagne solo de Bomberman, c'est ça ?
Oui, enfin, tout à fait.
Mission solo. Alors, on ne peut pas citer Mass Effect avec trois ou quatre itérations de la série Mass Effect, où là on est sur de l'exploration de planètes, des jeux dans l'espace, vous en trouvez énormément et qui sont alors pas tous avec le même intérêt, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup. Juste sur les jeux de société, on va pas avoir le temps de parler de beaucoup des jeux de société. Sam, t'avais un jeu sur l'exploration spatiale aussi avec les jeux de société.
Oui, j'ai un jeu qui est très simple mais qui est efficace, un jeu Level Up, qui est un jeu de chez Asmodée. Les cartes sont vraiment magnifiques. C'est un petit jeu de hasard, un jeu de cartes actuel. Le but étant de... Alors, on est bercé dans les romans de Jules Verne. Et il y a une communauté d'aventuriers. Et on essaie de s'en sortir en voyageant de la Terre à la Lune, vraiment. Et c'est super sympa.
Alors, voilà. L'espace qui inspire la culture geek. Oui, vous voulez tous dire encore plein de choses sur l'astronomie. Je sais, vous avez envie, mais le temps presse, messieurs, dames. Simplement, je dois vous dire aussi que l'astronomie, ça a inspiré depuis très longtemps les auteurs. On le dit tout à l'heure, depuis la préhistoire. Mais plus récemment, ça a même rendu certains auteurs un peu inquiets sur la place infime de l'homme au sein de l'univers. Et notamment un certain auteur, Lovecraft, H.P. Lovecraft, qui notamment était très intéressé par la science et qui avait vraiment peur aussi de ce côté gigantesque de l'espace et de ce qu'il pouvait y avoir dans l'espace. Et ça a inspiré en partie sa littérature et c'est ce dont nous parlerons lors de la prochaine émission, la semaine prochaine. Salut à tous, merci beaucoup, à bientôt.
Salut. Salut, merci.